Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Barbara Cassin. Ce soir, le choix de la philosophie.
Bonsoir Barbara Cassin.
Bonsoir.
Vous êtes philologue, philosophe, auteur de nombreux livres sur la sophistique, notamment sur la traduction. Vous avez été commissaire d'une exposition sur la traduction au MUCEM à Marseille. Et vous êtes une nouvelle académicienne élue en mai dernier et vous nous l'avez dit hier, qui sera reçue en septembre 2019. Alors ce soir, c'est plus particulièrement de votre choix de la philosophie et de ce qu'est pour vous la philosophie que nous parlerons. Est-ce que vous vous souvenez, Barbara Cassin, des premiers auteurs lus, des premiers textes ? Vous nous avez parlé de votre professeur de philo, mais les premiers textes qui vous ont beaucoup plu.
J'ai dû, comme tout le monde en classe de philo, lire un bout de Freud, un bout de Descartes, un bout de machin, un bout de truc, un bout de Kant. Bon, et tout ça m'a à chaque fois étonné par sa force, par sa liberté, par sa singularité. Bon. Mais je ne me souviens pas quoi. En revanche, si vous me demandez quel texte je récitais dans le métro, c'était Homère. Et je ne suis pas sûre de faire la différence entre quelques vers d'Homère qui parlent, je ne sais pas moi, de la manière dont Achille combat, ou de la manière dont sa mère crie et pleure, ou la manière dont Ulysse, bon, et de la philosophie. Et c'est peut-être comme ça que j'ai envie de commencer, si vous voulez. Aujourd'hui, je ne suis plus sûre d'avoir fait la différence. Et, ou plutôt, aujourd'hui, je ne suis plus sûre de faire la différence. Et d'ailleurs, si je commence comme ça, c'est qu'au fond, par rapport à ce qui est institutionnalisé comme philosophie, j'ai dû être très folle. C'est-à-dire que je crois me souvenir que lorsque j'ai passé le concours d'entrée de l'école normale supérieure, qui à l'époque était réservé aux filles, hein, c'était Sèvres, c'était donc séparé garçons et filles, et moi j'avais fait mes petits calculs post-68 art du genre... par rapport à l'agrégation, ensuite, y a moins de chances d'avoir l'agrègue de philo en n'étant pas normalienne que d'avoir un enfant en prenant la pilule. Bon, donc il fallait que je sois normalienne si je voulais avoir l'agrègue de philo. J'ai pas été normalienne. Et si je réfléchis à pourquoi et comment, dans mon souvenir, quand je suis rentrée à Sèvres, dans l'école normale de jeune fille, pour concourir, puisque c'était là qu'on concourait. D'abord, l'odeur m'a saisie. Je trouvais ça insupportable. Quelquefois, il y a des odeurs de prison, il y a des odeurs d'hôpitaux. Là, il y avait une odeur de... je sais pas quoi. De couvent. De trouille, de crasse. Bon, une odeur insupportable. Et lorsque j'ai fait le devoir de français, je crois que j'ai fait un devoir de philo. Lorsque j'ai fait le devoir de philo, je crois que j'ai fait un devoir d'histoire. Et lorsque j'ai fait le devoir d'histoire, je crois que c'était un devoir de français. Donc je comprends très bien, d'une part je comprends très bien de ne pas avoir été reçue, et d'autre part je crois que pour moi la perméabilité des genres a toujours été un moyen de m'en tirer. Quand on me demande où je suis, ben vraiment, je ne sais pas. Voilà. Et plutôt, j'ai envie de ne pas pouvoir le dire aussi simplement. Donc voilà. Donc je ne sais pas quel est le premier texte de philo que j'ai lu qui m'a vraiment arrêté, mais je sais qu'il y a des textes de philosophie que je ne cesse de relire et qui sont miens. Donc, Parménide, par exemple, Aristote, un bout de la métaphysique. Bon, il y a des textes qui m'ennuient ou pour lesquels il me faudrait de tels travaux d'approche pour pouvoir être vraiment dedans que je ne les ai pas toujours faits. Voilà.
Et est-ce que vous savez, Barbara Cassin, pourquoi vous avez raté 6 fois l'agrégation? Est-ce que c'est la même... Vous pensez que ce sont toujours ce pas de côté qui vous joue des tours?
Oh, ça, je crois que c'était... splatch. Plutôt, c'était les pieds dans la mare. Je crois que je suis très rétive à l'idée d'une dissertation bien faite. Et que j'ai eu des amis pourtant qui m'ont dit « Oh, écoute, c'est pas compliqué, on va t'expliquer ». Et ils m'ont très très gentiment expliqué, mais je crois que je ne peux pas supporter ça. Donc je peux pas supporter que ça soit, peut-être académique, vous êtes dur là, mais c'est possible. Ou je ne sais pas, ou peut-être que c'est simplement une angoisse réelle sur le moment qui fait que, j'aime mieux rater. I would prefer not to. Voilà, ça c'est possible. C'est possible que ça soit, que ça vienne de loin, que ça vienne de mon père. Ma mère a peut-être aussi préféré rater un certain nombre de choses. Bon, peut-être que je préfère rater un certain nombre de choses. Mais j'aime mieux me dire que je préfère plutôt que de dire que je les rate tout court. Donc voilà, c'est plus simple comme ça. Mais disons que c'est vrai, je ne crois pas savoir sans mal. Pourtant, je peux écrire vite et bien pour un article, ça peut se passer sans douleur. Je pense que peut-être que je n'aime pas être jugée, peut-être que c'est ça au fond. Peut-être que c'est du narcissisme, hein, de ne pas supporter. J'aime mieux avoir une mauvaise note pour de bon.
que moyen.
Et puis, je ne peux peut-être pas me retenir avec la langue. C'est peut-être ça aussi. Parce que j'ai quand même un souvenir très précis d'Agreg. Moi, j'avais vraiment travaillé Leibniz. Mais j'adore Leibniz. Et j'avais fait ça s'appelait à l'époque le DEA. Sur Leibniz avec Ferdinand Alquier, sur la correspondance entre Leibniz et Arnauld après le discours de métaphysique, un truc très précis, absolument formidable. Bon, donc j'avais vraiment, vraiment travaillé. Je connaissais Leibniz avec amour, intérêt, intelligence, je crois que je connaissais tout. Bon, et j'avais tout lu aussi, non seulement de lui, mais de la littérature secondaire. Et puis Aristote, j'avais vraiment travaillé Aristote. Et. J'avais commencé à travailler la métaphysique d'Aristote pour de bon, et en grec, etc. Bon, on a eu Aristote au programme, Leibniz au programme, et j'ai fait une dissertation, alors laquelle, je ne sais plus si c'était sur Leibniz ou sur Aristote, ou si c'était la lecture d'Aristote, enfin bon, en tout cas, on a eu à un moment donné le livre lambda de la métaphysique d'Aristote à commenter dans la traduction Tricot, et j'ai tout retraduit en grec, et j'ai dû avoir à zéro. Parce que, mais pour moi, c'était impensable de parler de Dieu avec une majuscule. C'était ridicule, c'était juste impossible. Donc, il fallait travailler un tout petit peu en dessous. Donc ça n'aurait pas dû arranger mon cas. Et l'autre chose à laquelle je pense, quand je dis c'est irrésistible, les mots, c'est vrai, peut-être j'ai du mal à résister. Donc j'avais conclu un travail, enfin une dissertation, la grande disserte, je crois, en disant que d'Aristote à Leibniz, on passe de Dieu premier moteur, un moteur immobile qui meut tout le reste, à Dieu promoteur. Parce que Leibniz, dans la Théodicée, c'est un grand immeuble, et puis la pièce du haut, c'est la meilleure, c'est celle qu'on habite. Bon. De Dieu premier moteur à Dieu promoteur, et je crois que ça ne devait pas non plus être une conclusion très autorisable. Si bien que, quand même, j'ai eu une tellement sale note, alors que j'étais sûre que c'était très bien ce que j'avais raconté, que j'ai été voir la confession. J'étais à la confession, ça s'appelle comme ça, quand les profs vous reçoivent, quand les correcteurs vous reçoivent.
Et ça s'appelle encore comme ça?
Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais de mon temps, ça s'appelait comme ça. Enfin, entre nous, en tout cas, on disait, on va à la confession. Donc j'ai été à la confession, et j'ai confessé le prof. En fait, c'était plutôt comme ça que ça se passait. Hein. Et donc, il m'a dit... De Dieu premier moteur à Dieu promoteur, c'est pas de vous, hein, c'est de beau frère. Ah, j'ai pas du tout, c'est moi qui l'ai inventé. Ah bon ? Ah oh, ben, et alors là, je vais vous dire sans modestie ce qu'il m'a raconté, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oh ben ça, c'est du génie, mais c'est pas de talent. Mais il faut du talent pour l'agrégation, il faut surtout pas de génie. Voilà, donc ça m'a consolée, si vous voulez. J'ai eu des consolations tout le temps.
Beaufray, Barbara Cassin, c'était un ami de Heidegger.
C'était l'un de ceux qui ont introduit Heidegger en France. Et c'était un très grand professeur de philosophie à Condorcet. Et beaucoup de mes amis étaient en Cagne à Condorcet rien que pour écouter Beaufray. Et donc Beaufray ouvrait ses cours, et donc j'y suis allée beaucoup. Et au moment où on a fabriqué cette espèce d'université alternative dans un appartement rue de Lanneau, avec Michel Deguy, autour de Michel Deguy, autour d'un certain nombre d'amis, etc., Beaufray venait. Donc voilà.
Vous avez dit votre DEA, Barbara Cassin, avec Ferdinand Elquier. Quel professeur était-il ?
Je n'ai pas beaucoup suivi ses cours, mais je me souviens de choses. Enfin, c'était un grand prof. J'ai lu ses livres sur Descartes et sur Leibniz et les querelles, Guéroux, Elquier, etc. Il y avait des querelles sûrement à la fois de clochers très profondes. C'était un grand prof, mais moi je me souviens de lui, c'était juste en 68, il m'a reçu, c'était le DEA, c'était juste avant, à peine, avant mai, enfin, donc il m'a reçu chez lui parce que c'était déjà le bordel partout, et sa femme m'a ouverte, qui avait des cheveux bleus ou roses, je ne sais plus, paraît-il, il y avait tellement de ragots, avait eu une vie agitée avant, et lui était charmant, et il m'a montré tout ce qu'il avait comme poème des surréalistes, etc. Et donc pour moi c'était un homme d'abord charmant, et puis aussi simultanément qui écrivait des grands livres, enfin des grands livres d'historien de la philosophie, voilà.
Vous avez une passion pour le grec, pour la philosophie grecque. Vous avez fait donc votre DEA sur Leibniz. Est-ce que, Barbara Cassin, vous aimez les philosophes français ? Est-ce que les Français sont peu doués pour la philosophie par rapport aux Allemands ? Voilà. Est-ce qu'il y a des esprits et des cultures qui portent moins à exceller en philosophie ?
Cette question est terrible, parce que il va de soi qu'il y a énormément de philosophes allemands, de très grands philosophes allemands, et que la philosophie, dit-on, est née en Grèce. Donc on aurait tendance à dire que, il y a des... quoi ? Des peuples, des langues, des cultures qui sont plus propices que d'autres à la philosophie. Et alors là, Heidegger s'engouffre. Et dit, l'aurore de la philosophie, Parménide, la Grèce, tout ça. Et puis la philosophie, la pensée aujourd'hui, enracinée dans une race et dans un peuple, et dans une langue, l'Allemagne. Donc moi je me suis écartée de ça immédiatement. J'ai quand même regardé ce que c'était. Ma grande chance, je crois, c'est d'avoir rencontré Heidegger, mais en même temps que j'ai rencontré René Char, et d'ailleurs chez lui. Et Heidegger avait l'air d'être fasciné par Char. Char n'avait pas l'air d'être fasciné facilement, mais enfin, disons qu'il tenait Heidegger en estime, puisqu'il le recevait chez lui. Et il recevait chez lui un certain nombre d'étudiants et de profs qui constituait le séminaire du Thor. Le séminaire du Thor, c'était, je ne sais plus, 69.
69.
Oui. Enfin, il y a eu avant, et puis moi, j'y étais en 69.
C'est dans le Vaucluse ?
Oui, c'est près de chez Char. Et c'était quand même quelque chose de complètement exceptionnel de me retrouver, je ne sais pas quel âge j'avais, 69, 22.
Ouais.
Avec Heidegger et Char. Et c'était... Donc, j'écoutais, je regardais, je sentais, je vivais, enfin bon, de manière... de manière... avec une intensité par tous les pores de ma peau. Et cela, après 68. C'est-à-dire que ça pouvait tenir bon. Il y avait quelque chose qui tenait bon. et qui tout ce qui tenait bon, c'est que on pouvait inventer dans les cadres majeurs. On pouvait inventer et en politique, et en philosophie, et en poésie, et c'était ouvert, et c'était libre, et c'était à nous de le faire. Donc ça, c'était extraordinaire. Pour moi, c'est comme ça. Et nous avons parlé de l'agrégation, mais si vous voulez, la vérité vraie de tout ça, c'est que ça n'avait aucun intérêt de faire une disserte. Ça n'avait aucun intérêt de passer l'agrég. Ça n'avait même aucun intérêt, sauf un intérêt d'agrément financier, d'être normalien agrégé. Aucun. C'était catastrophique. Enfin, je veux dire, c'était pas catastrophique du tout. C'était super, sauf que il fallait pas dévier d'un pouce pour le faire. Rien ne valait de sacrifier quoi que ce soit en liberté. Voilà. Et d'ailleurs, les amis avec qui j'étais, je vous parlais de la rue de l'Anneau, de cette espèce d'université alternative qu'on avait fabriquée, les amis avec qui j'étais sont, parfois ceux de mon âge, sont devenus profs. Par exemple, Patrick Lévy, avec qui qui nous a fait traduire Hannah Arendt, qui n'était pas traduite à l'époque. Donc, c'est sous sa direction qu'on a commencé à travailler à Arendt. Eh bien, Patrick Lévy a été prof. Je ne vous dis pas que c'est parce qu'il était prof, mais je vous dis qu'il s'est suicidé. Il s'est jeté sous un pont, le même pont que Paul Celan. Et c'est un homme magnifique, avec des yeux bleus comme personne n'en a jamais eu, et une intelligence et une culture que je n'ai pas rencontrée. Et simplement, être prof et en rabattre et en rabattre et en rabattre encore, mais peut-être qu'il était aussi mal dans sa peau. Enfin, je veux dire, je ne dis pas que c'est d'être prof qui vous fait suicider, mais bon, voilà. Les amis, mes amis, qui sont devenus profs, inspecteurs, etc. Je suis heureuse de ne pas avoir eu les concours qu'ils ont eus. Voilà. Donc, ça revient quand même à qu'est-ce qui s'est passé au séminaire du Thore. Qu'est-ce qui s'est passé d'absolument irrécupérable irrécupérable par la médiocrité. Mais irrécupérable pour le meilleur et pour le pire. Oui.
Le pire, c'est quoi ?
Le pire, c'est les cahiers noirs. C'est Heidegger nazi. Chose qui ne se savait pas comme ça à l'époque.
Quand ont été découverts, Barbara Cassin, les cahiers noirs ?
Les cahiers noirs, c'est récent. Enfin, mais le nazisme de Heidegger, c'est pas récent.
Mais vous le saviez ?
On savait qu'il y avait quelques. On savait qu'il avait été nazi, mais comme un nazi ordinaire. Et moi, j'ai jamais compris tout à fait ce que ça voulait dire. Je me disais que les philosophes pouvaient se planter et que c'était même assez philosophique de se planter. Et au fond, Hannah Arendt dit ça dans Martin Heidegger pour son anniversaire à 80 ans. Martin Heidegger à 80 ans, elle dit. Les philosophes ont quelque chose comme une déformation professionnelle. C'est être séduit par les dictateurs et les tyrans. Platon, Heidegger, c'est pour ça qu'elle ne fait pas de philosophie politique. Depuis Platon, dit-elle, ça n'est plus possible. Donc là, c'est très net, c'est très clair. Et pour moi, René Char était grand résistant et homme sublime. Était en somme le garant que le nazisme de Heidegger c'était pas encore quelque chose qui interdisait tout, qui interdisait de penser, qui interdisait de parler avec lui, qui interdisait de travailler ses thèses, vous voyez, comme aujourd'hui je ne pense pas du tout qu'il ne faille pas travailler ni lire Heidegger, mais je pense qu'on ne peut plus le lire sans cette certitude là que, en effet, il y a quelque chose de l'ordre de la connaturalité avec le nazisme dans sa pensée. Donc voilà, c'est tout. Je pense que là, on ne peut plus être bête et innocente comme je l'étais.
Mais, vous aimiez, Barbara Cassin, lire Heidegger lorsque vous arrivez au séminaire du Thore en 1969 ?
Le séminaire de 69 était sur Leibniz. Et moi, je venais de terminer mon travail sur Leibniz. Donc j'adorais. Heidegger est un immense historien de la philosophie. C'est-à-dire qu'il lit d'une manière extraordinaire. Il a une perspicacité de lecture dirigée et guidée par ses questions à lui. Hein. Mais c'est un très très grand, je veux dire, après Hegel, il y a Heidegger. Bon, et ça, c'est comme ça. Donc il faut en tenir compte, même par rapport à la philosophie, et c'est pour ça que je rappelais ce mot de Hannah Arendt. Peut-être que les philosophes ont des formations professionnelles. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, je ne suis pas très sûre de savoir quel était mon premier livre de philosophie et si vraiment je suis philosophe et comment. Je bouscule avec joie un peu toutes ces limites. Et je me souviens, par exemple, d'une conversation entre Heidegger et Char, chez Char, en fait, au Rebanquet, exactement, je crois que c'était, c'est-à-dire dans la pleine nature, dans le Luberon. Et Heidegger disait à Char quelque chose comme « Nous sommes, vous, poète, poète, moi, philosophe. »
En quelle langue parlait-il,
Il parlait plutôt allemand, hein. Il parlait pas français. Non. Mais bon, le ton de voix, même quand il parlait français, était très allemand. Et alors, en tout cas, mettons quelque chose comme « Vous, poète, moi, philosophe, nous sommes sur des monts comme ça, un peu éloignés l'un de l'autre, et nous nous faisons des grands signes. » Et la réponse de Char m'avait beaucoup plu. Il disait non, mais on est plutôt des prisonniers dans des cachots voisins et on communique par un tout petit, dans des culs de basse-fosse, et on communique par des petits trous comme ça, on souffle. Et de temps en temps, il y a quelque chose qui passe.
Pratiquement, Barbara Cassin, comment se passait l'arrivée au séminaire? Parce que vous dites que c'était la liberté, c'était l'ouverture. Vous avez débarqué comme ça ou
être invité.
Ah, quand même.
Il fallait drôlement être invité. Ouais. Je veux dire, c'était François Fédier qui était le maître des cérémonies. Et à l'époque, nous étions assez liés. Et il était professeur aussi en Hippocagne à Pasteur. Il avait succédé à Michel Deguy qui était passé à l'université à Paris 8. Et donc c'était un petit monde et François Fédier était présent dans cette université alternative dont je vous parlais, en même temps que beaucoup de gens très différents. Mais enfin, disons que quand on faisait de la philosophie à l'époque à Paris, elle était plutôt heideggerienne. C'était plutôt là qu'on apprenait des choses. Et il n'y avait pas de philosophie analytique. La phénoménologie était heideggerienne, et donc les grands philosophes se positionnaient par rapport à Heidegger d'une manière ou d'une autre, les grands professeurs, et quand ils étaient vraiment grands, ils travaillaient là où Heidegger n'avait pas mis le nez. Deleuze était d'une certaine manière heideggerien. Derrida était Anne heideggerien, c'est-à-dire qu'il était heideggerien et il travaillait autrement. Mais voilà, c'était quand même par rapport à Heidegger que les positions philosophiques se tenaient, plus ou moins. Donc, moi, je n'avais pas lu beaucoup Heidegger parce que je m'en méfiais beaucoup. J'aimais mieux lire Leibniz. Mais tous mes amis et tous mes copains lisaient Heidegger et étaient des heideggeriens de choc. Et pas moi. Mais c'était juste parce que, je ne sais pas, c'était encore une orthodoxie. Il y avait déjà eu des orthodoxies en 68 qui m'étaient pénibles. Des maoïstes pénibles, qui étaient d'ailleurs mes amis, et qui parfois le sont restés, mais qui étaient quand même assez craignos. Et moi, j'ai eu ensuite des amis heideggeriens qui étaient eux-mêmes aussi, d'une certaine mesure, assez craignos.
Un portrait, Barbara Cassin, de René Char.
René Char ?
Oui.
Mais René Char, c'était un homme dont la stature pouvait remplir une porte, une grande porte. Non, c'était un grand homme, dans tous les sens du terme, mais... Si vous voulez, moi, c'était surtout un homme que j'ai aimé éperdument. Et voilà, il y a eu des choses qui... c'était un homme qui a beaucoup compté pour moi et j'ai peut-être un peu compté pour lui, voilà. Il y avait une différence d'âge absolument extraordinaire, mais extraordinaire.
Il avait quel âge ?
Oh, je ne sais pas, il avait l'âge de ma mère, c'est-à-dire une trentaine d'années plus que moi, quoi. Quelque chose comme ça, ou peut-être même un peu plus, je ne sais pas. Je ne compte pas.
Vous dites, Barbara Cassin, que c'était craignos les Mao en 68. Vous vous en rendiez compte, donc, en 68, qu'il y avait des excommunications ou une orthodoxie
Non, mais il y avait des excommunications et des guériennes. J'ai une assez mauvaise conscience des dates, mais François Fédier, par exemple, excommuniait certaines personnes comme étant non-philosophes. Et puis, il y avait certaines excommunications politiques aussi, c'était pas comme ça, etc. Mais en même temps, dans la mesure où, politiquement, en 68, il y avait un éventail, on pouvait aller d'une pièce à l'autre. Et ça permettait de respirer. Mais j'avais des amis maoïstes qui jouaient en costume éponge sur mesure dans un piano de leur hôtel particulier sous un portrait de Mao. Donc on ne pouvait pas ne pas aussi rire un peu.
Merci Barbara Cassin. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Barbara Cassin. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.